Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une voix singulière et courageuse qui s'est imposée sur les réseaux sociaux avec élégance et franchise, hein, polonaise et française, elle est connue, hein, sous le nom de la slave dissidente. Anastasia donc, mène depuis plusieurs années une véritable guerre contre le manque d'objectivité, de culture et de neurones. Sur TikTok, Instagram et X, hein, elle défend une féminité assumée, enracinée face au néo-féminisme et au wokisme ambiant. Elle valorise l'élégance, le rôle des femmes dans la famille, le bon sens et la mémoire des peuples. Avec un regard à la fois extérieur et intérieur sur la France et l'Europe, elle n'hésite pas à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Nous allons parler avec elle de féminité véritable, des dérives idéologiques contemporaines, des différences entre la Pologne et la France, et il y en a, de mémoire historique, notamment sur les tragédies polono-ukrainiennes et de l'avenir de notre civilisation. Eh bien, Anastasia, donc la slave dissidente, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour l'invitation, bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous donc, parce qu'il y a quand même des auditeurs qui ne vous connaissent pas, hein, vous présenter simplement à nos auditeurs, d'où venez-vous exactement, hein, j'ai parlé d'origine polonaise et française, quel a été votre parcours et pourquoi avoir choisi donc, le pseudonyme « la slave dissidente » ?
Bien sûr, alors je m'appelle Anastasia, j'ai 25 ans, je suis née en Pologne, mes parents ont migré en France lorsque j'avais 3 ans, et moi j'ai fait le choix de revenir en arrière vers la vingtaine, donc je suis rentrée en Pologne, actuellement je vis là-bas, malgré ma double nationalité franco-polonaise. Pourquoi la slave dissidente ? Eh bien puisque génétiquement je suis slave, en majorité, pas que, et j'ai trouvé le paradoxe très intéressant avec la dissidence, étant donné qu'en anglais slave ça veut dire esclave, ce qui est totalement paradoxal avec cette dissidence qui malheureusement est dissidente de nos jours, puisque la morale dominante ne me correspond absolument pas, ni le système, ni les élites, donc je me considère comme une slave dissidente, tout simplement.
Très bien, et on peut d'ailleurs vous retrouver, hein, rappelons-le, alors principalement sur
Principalement maintenant sur Instagram, vu la censure de TikTok, qui n'aime pas du tout notre ligne éditoriale, si je puis dire.
Et un peu sur X.
Oui, un tout petit peu sur X, mais très peu.
Et dans votre bio, d'ailleurs, Anastasia, vous dites être en guerre contre le manque d'objectivité, de culture et de neurones. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole publiquement et quel est le fil rouge de vos contenus sur TikTok, Instagram et X ?
Eh bien, je parle essentiellement de féminisme, de wokisme, de politique, de relations hommes-femmes et de la Pologne. Qu'est-ce qui m'a poussée ? Eh bien, je pense à un imbrigadement collectif de notre génération. Je trouve que nous sommes plutôt endormis, plutôt manipulés par toute cette morale dominante qui est selon moi mortifère parfois. Je la trouve très, très, très dégradante envers la femme, l'homme, envers la France, envers... voilà, et tout simplement, tout cela m'a révoltée, donc je me suis dit non, je ne peux pas me taire, je vais faire des vidéos.
Parce qu'il est légitime, ouais.
Selon certains, non, mais selon moi, oui. Voilà.
Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos, parce que effectivement... Vous ne vous gênez pas pour, et on va en parler, pour en dire...
Je suis un peu censurée par les réseaux, par TikTok surtout, mais j'essaye de vraiment... très étonnant. J'essaye de vraiment donner la meilleure image possible de ma pensée.
Et vos vidéos rencontrent un vrai écho, notamment sur les questions de féminité et de société, c'est important. Comment avez-vous commencé et quel retour recevez-vous de vos abonnés ?
À vrai dire, par hasard. De base, je voulais faire de l'humour, voilà, je voulais faire le pitre. Mais ma quatrième vidéo, il me semble troisième ou quatrième sur TikTok, j'ai réagi à des féministes qui estimaient que la taille des téléphones, tenez-vous bien, était sexiste, que la température des bureaux était également sexiste. J'ai donc réagi à cette vidéo en m'offusquant, en disant que c'est scandaleux, et elle a explosé, 400 000 vues. Et je me suis dit, mais mon avis intéresse les gens, en fait. Et je me suis vraiment créé une mission d'essayer de désembrigader ces jeunes filles qui sont totalement manipulées par ce discours. Et voilà, j'ai commencé à parler de féminisme, puis ça a dérivé naturellement sur les relations hommes-femmes, la politique, la Pologne, puisque ça a pas mal intéressé les gens, et surtout les Français, hein, qui me demandent même des conseils d'expatriation ou de voyage. Donc voilà, naturellement, ça s'est tourné vers toutes ces notions, un peu.
Voilà. D'accord. Et quand ce que vous évoquiez là, c'était quoi ce délire exactement?
Pour développer. C'est Camille et Justine, ce sont deux féministes qui font voilà des vidéos. Je ne sais pas si elles en font encore d'ailleurs. Oui, voilà des formats courts pour bien rabaisser les hommes constamment, surtout les hommes blancs hétérosexuels, voilà évidemment de droite. Et bien voilà, elles ont fait une vidéo de toutes les inventions sexistes et tout le sexisme ambiant dans notre société. Du coup, elles ont évoqué la taille des téléphones et la température des bureaux qui n'est pas adaptée aussi. Hormonal des femmes. On sait qu'il varie beaucoup, il serait difficile de changer de température à chaque variation de cycle, je pense. Voilà, j'ai tout simplement critiqué leur contenu.
C'est n'importe quoi. On est bien d'accord.
C'est bien à l'image du discours dominant néo-féministe, selon moi.
Exactement. Anastasia, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Anastasia, donc la slave dissidente, vos vidéos rencontrent un vrai écho, notamment sur les, on l'a dit, hein, sur les questions de féminité et de société. Vous critiquez d'ailleurs fermement le néo-féminisme et le wokisme. Selon vous, en quoi ces idéologies se distinguent-elles du féminisme historique? Et quelles conséquences concrètes observez-vous sur les femmes? Les hommes et les familles en France et en Europe. Vaste question.
Très vaste question. Premièrement, je pense que concernant le féminisme historique, comme j'aime le dire, le féminisme originel, il y a eu déjà beaucoup de mensonges. Hein. On a fait passer la femme pour une pauvre victime qui n'a fait que cuisiner pour son mari et élever ses enfants, ce qui est factuellement faux. Les femmes ont toujours travaillé, elles étaient agricultrices, couturières, dames de maison, peu importe. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le féminisme historique. Ça n'est pas la révolution humaniste qu'on nous vend. Hein. Ça a été un mouvement de bourgeoises qui ont voulu quand même se battre pour leurs propres droits, pas pour celles des paysannes ni pour les femmes noires, par exemple. Donc je pense qu'il y a quand même matière à critiquer sur le féminisme originel, bien qu'il y ait quelques valeurs qu'on peut comprendre, quelques combats. Par exemple, je ne sais pas, le fait d'avoir son propre compte en banque, je le comprends. Voilà. Je pense que le néo-féminisme se distingue, malgré les nombreuses critiques qu'on peut avoir de ce féminisme originel, de par, tout simplement, déjà sa polarité. Je pense qu'il y a de nombreuses luttes maintenant, diverses et variées. Donc nous avons les fémènes qui se dénudent dans la rue, nous avons les misandres qui détestent les hommes juste parce qu'ils sont on est comme tel, nous avons voilà, il y a énormément de courants différents et je pense que vous m'avez parlé du wokisme aussi, c'est bien cela. Et je pense que tous ces mouvements qui prônent déjà premièrement le relativisme moral, hein, tout est acceptable, tout est interchangeable, tout est subjectif, je pense qu'ils veulent nous vendre du mensonge. Pour moi, une femme ne peut pas devenir un homme, je ne suis pas non-binaire, c'est un problème, personne n'est non-binaire, d'accord, je pense qu'il y a des... Il faut se faire soigner, c'est mon avis personnel. Et je pense que tous ces mouvements, qui du coup prennent le relativisme moral servent à diviser, tout simplement. On divise des alliés naturels que sont les hommes et les femmes. Hein. Nous sommes censés se compléter. Nous avons été faits pour fonctionner ensemble, pour avancer ensemble. Et pareil pour le wokisme, on divise les blancs, les noirs, enfin les religieux, pas religieux. Tout simplement, je pense que tout cela vise à la division. Et je pense que le système est ravi d'avoir un peuple divisé parce qu'un peuple divisé ne s'unit pas, ne se révolte pas et se soumet. Parce que forcément, si on fait la guerre à notre voisin, à l'homme ou à la femme, comment voulez-vous qu'on s'unisse? Et du coup, ça arrange le système. Ça arrange tout simplement le système d'avoir des femmes qui ne sont pas enracinées, qui n'ont pas de base morale, qui suivent les tendances un peu voilà, par subjectivité, tout simplement par émotion. Des êtres humains qui, tout simplement, ne s'unissent pas contre ce pouvoir en place qui, finalement, pour rester poli, nous entube tous. Voilà.
Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs Johan Power, vous devez être aussi je pense très choqué quant à ce délire maintenant qu'on peut voir dans les écoles aussi, les drags qui débarquent dans les écoles,
devant les
ventes,
basiliques,
les ventes de poèmes porno comme il n'y a pas longtemps,
scandale.
Puisqu'il est même condamné pour ça, parce qu'il a osé dire que...
Ah, il est condamné.
Il est condamné à Nice, oui.
Mais je vais dire aussi, je vais en parler. J'ai fait une vidéo concernant récemment le scandale du drag queen devant
c'est
la basilique Saint-Quentin.
C'est pour ça que je vous en parle.
Mais pour moi, tout ça, c'est le résultat du relativisme moral qui est lui-même le résultat de l'athéisme. Pour moi, quand il n'y a pas de cadre moral, c'est toutes ces dérives qui apparaissent, tout simplement. Mmh. Quand il n'y a pas de cadre chrétien sur lequel la France s'est créée avec un cadre clair et net, une morale objective, tout cela est acceptable, finalement, puisque la morale varie en fonction de l'époque, de la culture, voilà. Pourquoi pas injecter des hormones qui bloquent la croissance à des enfants ? Pourquoi pas ? En quoi ce serait mal de danser devant une basilique à moitié dénudée en prononçant des phrases obscènes ? Voilà, s'il n'y a pas de morale objective, de Dieu et de cadre, finalement, pourquoi il y aurait un problème ?
Et dans vos contenus, vous valorisez l'élégance, hein, Anastasia, féminine, évidemment, le rôle dans le foyer et des gestes comme cuisiner pour son homme. Donc comment définissez-vous aujourd'hui la vraie féminité et pourquoi pensez-vous qu'elle est attaquée ou dévalorisée ?
Premièrement, je tiens quand même à souligner que je n'estime pas que la femme doit juste être femme au foyer, cuisiner, oui, faire le ménage. Premièrement,
je pense que les auditeurs ont cerné.
Ouais, mais j'ai beaucoup d'attaques concernant ça, d'accord. Donc je précise. J'estime que la féminité, c'est ce qui complète la masculinité. D'accord, vous allez me parler de stéréotypes, mais je vais quand même le dire. Je pense que la féminité, c'est la douceur, c'est le soin, c'est l'amour, c'est cette chose qui adoucit le foyer finalement face à ce monde de brut. Je pense qu'être féminine, c'est être en accord avec sa nature profonde. Mmh. Je pensais avoir un équilibre et faire propager cet équilibre et cet amour au sein de son foyer, au sein de son entourage. Je pense que les femmes ont très souvent cette espèce de talent. Mais, tout simplement, je pense adoucissement, c'est le mot parfait. Et la question c'était comment...
Je vous demandais aussi pourquoi pensez-vous qu'elle est attaquée ou dévalorisée.
Oui. Oui, voilà. Eh bien, tout simplement, car une femme qui sert son foyer et son mari et pas un patron est moins rentable. Tout simplement, je pense que le système a besoin de contribuables. Je pense que le système est ravi de voir que les femmes doivent rentrer de 16 semaines de congé et travailler, et pas, par exemple, au bout d'un an, comme c'est le cas dans des pays nordiques. Je pense que le système est ravi de ne pas avoir des femmes enracinées, que tout simplement, tout cela favorise déjà non seulement le profit. Ces femmes sont fatiguées, mais parfois, si elles ont des enfants, elles sont obligées de jongler entre foyer et travail, elles ont un double travail en réalité, et je pense que tout cela vraiment mène vers justement cette déracinement et cette manipulation finalement de ces femmes qui finissent par être les esclaves du système, comme les hommes, mais là le sujet ce sont les femmes, donc voilà, je pense que c'est exactement pour ça, pour faire croire aux femmes qu'elles peuvent être seules, qu'elles peuvent être indépendantes, alors que par exemple le professeur et docteur Boris Cyrulnik nous dit que nous sommes des êtres contraints à la socialité. Donc, nous ne pouvons pas être seuls et indépendants. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études, je ne sais pas si vous les avez lues, aux États-Unis sur la consommation des antidépresseurs. Okay. Les personnes qui en consomment le plus sont les femmes seules de plus de 35 ans, selon certaines
vous
études.
Vous n'en avez pas parlé, d'ailleurs sur...
Oui, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça intéressant. On pourrait se questionner sur le fait de est-ce qu'on ne sommes vraiment faits pour être seuls ? Et je ne pense pas. Et être l'esclave du système, encore moins. Esclave de son 7h-17h. Les femmes, aujourd'hui, on leur vend une thèse selon laquelle il serait plus valorisant de servir le café à son mari plutôt qu'à son homme. Ouais. Je trouve ça scandaleux. Je ne dis pas que nous sommes toutes contraintes à faire ça. Bien sûr, il y a d'excellentes femmes médecins, je ne sais pas, danseuses, directrices de refuge, je ne sais pas. Mais je dis juste que nous devons arrêter de dévaloriser la féminité puisque c'est primordial pour le fonctionnement d'une société. Une femme qui élève ses enfants, c'est le socle même d'une société. Un homme aussi, bien évidemment, mais pas dans le même cadre. Je pense que nous devons cesser de dévaloriser la féminité, le rôle de mère. Et c'est justement ce féminisme ambiant qui a poussé comme modèle la girl boss, la femme qui est indépendante, qui travaille et tout. Je trouve que c'est vraiment, c'est vicieux. Voilà.
Écoutez, le message est passé.
J'espère.
Beaucoup vous reprochent aussi d'être rétrograde. Hein. Comment répondez-vous à cette critique ? Y a-t-il, selon vous, un moyen de réconcilier certaines avancées légitimes des femmes avec un retour à des rôles complémentaires plus traditionnels ?
Si être rétrograde, c'est être réaliste, eh bien je le suis. Moi, personnellement, j'essaye d'éteindre mes émotions au maximum et d'observer les faits de manière pragmatique. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Moi, par exemple, je ne comprenais pas pourquoi la femme était une femme élégante, pourquoi c'était une femme qui était, par exemple, un peu couverte, pas dénudée. Pourquoi je ne pouvais pas sortir comme je veux. Et je me suis posée, j'ai éteint mes émotions, je me suis dit, je vais essayer d'appréhender ça avec mon cerveau. Pas du coup émotionnel. Et comment réconcilier ça avec du coup les avancées modernes, c'est bien ça ? Eh bien, nous pouvons faire plusieurs choses. Par exemple, une avancée moderne, on peut dire, c'est quand même, par exemple le congé maternité. Ça n'existait pas fut un temps. Et nous pourrions, par exemple, le prolonger afin de concilier donc, cette avancée, qui pour moi est une avancée, et le fait qu'une femme veut rester au foyer. Par exemple, dans les pays nordiques, quand on parle de un an de congé maternité contre 16 semaines, il me semble, en France, c'est une catastrophe. La femme n'a même pas l'occasion de s'en remettre. Donc voilà, c'est un exemple... que j'estimerais bénéfique pour les femmes au foyer et aussi les femmes modernes.
En Pologne, d'ailleurs, c'est...
Il me semble que c'est un tout petit peu plus long qu'en France, mais c'est pas fou. Hein. Ce n'est pas du tout fou. Et puis bon, le revenu n'est pas...
Justement, je parlais de Pologne. Le président donc, polonais, Karol Nawrocki, vient d'annoncer le retrait de l'ordre de l'Aigle Blanc. Hein,
merveilleux. Merveilleux.
Plus haute distinction polonaise à Volodymyr Zelensky, en raison donc, de la glorification de l'UPA, donc l'armée insurrectionnelle ukrainienne, et des massacres de Volhynie. Quelle est votre réaction à cette décision et que révèle-t-elle, selon vous, des tensions historiques entre Polonais et Ukrainiens ?
Décision merveilleuse, nous l'attendions depuis des mois, de nombreux Polonais l'attendaient depuis des mois, hein. D'après les statistiques, bon c'est un journal de gauche, mais bon on va quand même prendre leurs statistiques, la majorité des Polonais sont contents de cette décision. Ouais. Et que révèle-t-elle ? Eh bien il y a une tension déjà historique par rapport aux Polonais et aux Ukrainiens, mais également contemporaine de nos jours, il y a plus de 40%, bon ce sont des études déclaratives, mais bon, de Polonais qui déclarent une hostilité envers les Ukrainiens. Personnellement, c'est une stat que je sors de mon chapeau, je dirais plus 70, mais honnêtement, les Polonais et les Ukrainiens, je ne cohabite pas bien. Déjà, les Ukrainiens sont surreprésentés dans les crimes et délits. Bon, en proportion et devant, il y a les Géorgiens, mais en nombre, ce sont eux les plus nombreux. Après, ils sont nombreux, on peut... Voilà. Mais ils sont surreprésentés. Il y a vraiment un ras-le-bol des Polonais face à tout ça, en fait. Déjà, au gouvernement qui donne plus de droits aux Ukrainiens qu'aux Polonais. Hein. Pendant une très longue période, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, les Ukrainiens avaient droit à l'assurance maladie gratuite, ce qui n'est pas le cas pour les Polonais. Mmh. Il faut avoir un statut, par exemple, soit être au chômage, étudiant, travailler. Eux l'avaient gratuite, de manière gratuite. Mmh. Des appartements, des aides, enfin bref. Il y a vraiment... Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux être noir ou arabe que ukrainien aujourd'hui en Pologne. J'ai vu des Ukrainiens qui se plaignaient du racisme, rien que parce qu'ils roulaient avec une plaque d'immatriculation ukrainienne, ils se faisaient klaxonner, insulter. Il y a vraiment une tension entre les Polonais et les Ukrainiens, déjà due au passé, due à l'actualité. Et beaucoup de Polonais ne ressentent pas de gratitude, en fait, venant des Ukrainiens. Bien sûr, c'est une généralité, il y a forcément des gens qui sont très, très heureux et qui nous remercient, mais il y a vraiment une ambiance hostile. Par rapport à ça et par rapport à l'UPA, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'UPA pour les Ukrainiens, c'est leur armée de résistance. Ils ont combattu l'URSS. Sauf que ils ont également commis un massacre d'environ 100 000 Polonais en Volhynie, et du coup, bah, leurs héros sont nos ennemis, et forcément, ça crée de la discorde.
Et la Pologne reste un soutien majeur de l'Ukraine face à la Russie. Hein, comment concilier ce soutien stratégique avec la défense ferme de la mémoire des victimes polonaises de l'UPA, justement, et de Stefan Bandera ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas le réconcilier. Honnêtement, je ne fais confiance ni à la Russie, ni à l'Allemagne, ni à l'Ukraine. Je pense que l'histoire a parlé pour elle-même. Nous ne devons pas oublier l'histoire, justement, parce qu'elle nous en apprend. Et d'ailleurs, Dostoïevski en parle. Il nous dit que nous sommes unis par le vice. Exactement. Donc voilà, moi, je ne fais confiance à personne. Et je pense que beaucoup de Polonais sont dans mon cas. Certains estiment que aider l'Ukraine est la solution, est la meilleure solution, la moins pire. Moi, je ne suis pas convaincue, surtout quand on leur envoie des milliards de zlotés et des milliards d'euros de l'Union européenne, alors que c'est l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, honnêtement, mais sûrement pas une aide massive. On leur a envoyé des chars, des armes, de l'argent, on les a accueillis massivement. Enfin, moi, je suis contre. J'estime que les Polonais ont assez vécu d'événements sanglants durant le dernier siècle. Le siècle précédent, nous n'étions pas sur la map pendant 123 ans. J'estime qu'on devrait s'occuper surtout de notre intérêt. Ne pas, peut-être une aide minime, pourquoi pas, mais je pense que c'est irréconciliable et que nous devrions faire confiance à personne.
Non, pour vous, c'est irréconciliable.
Non.
D'accord. La Pologne semble aussi préserver mieux que la France certaines valeurs d'identité nationale, de famille et de bon sens. Donc, quelle différence, Anastasia, majeure, observez-vous entre les deux pays et quelles leçons la France pourrait-elle en tirer, notamment sur l'éducation, l'immigration ou la cohésion sociale ?
Il y en a énormément. Je dirais que premièrement, la fierté nationale. Il y a des drapeaux polonais absolument partout, que ce soit à la campagne ou en ville. Bon, à Varsovie, il y en a qui ont un drapeau LGBT sur leur balcon. Passons. Mais le drapeau polonais est présent partout. J'estime que la France devrait prendre exemple. On a quand même eu des cas où des personnes se faisaient traiter de fascistes parce qu'elles avaient exposé un drapeau français. C'est un scandale. En Pologne, ça ne passerait jamais. Personne ne va nous interdire d'afficher notre drapeau, tout simplement. Peut-être une deuxième différence, ça serait que les hommes sont encore patriarcaux. Ils connaissent leur rôle. Ils défendent leur pays. Par exemple, il y a eu un scandale récemment, je ne sais pas si ça a fait la une en France. La nuit, la police allemande se permettait de ramener, ça a été filmé, des migrants sur notre territoire.
Je l'ai vu sur la
rue. Des milices se sont créées, des milices d'hommes, voilà, qui ont fait des vidéos, qui ont dit « ne venez pas ici, vous n'allez pas passer ». Voilà, j'estime qu'en France, ça manque de masculinité, je suis désolée. Bien sûr, c'est lié à plein de choses, la sédentarité, les nourritures ultra transformées, la propagande féministe qui pousse l'homme à être égalitaire, mou, etc. Mais j'estime qu'un homme est là pour défendre. J'estime c'est grâce aux hommes que nous en sommes là où nous sommes, et j'estime que c'est le rôle de l'homme de protéger, de défendre, de l'idée, tout simplement. Et je trouve qu'en France, ça manque. Souvent, je parle à des hommes de gauche, mou, qui me disent « mais non, la morale est subjective, mais non, mais je suis là, mais réveille-toi, je suis plus masculine que toi !» C'est insoutenable. Voilà, donc pour résumer, parce qu'il y a beaucoup de différences, je dirais ces deux points-là, le patriotisme et la masculinité.
Donc vous trouvez tout ça mollasson.
Très mou, c'est insoutenable. Les hommes ne sont pas censés être comme tels, mais c'est, je pense que les élites sont ravies, je pense. Je pense que c'est voulu.
Que les élites
sont ravis. Je pense que c'est voulu. Mmh. C'est pas pour rien qu'il y a autant de, par exemple, je ne sais pas, d'additifs ou de produits ultra transformés dans notre quotidien. Tout ça, ça joue sur les hormones, les perturbateurs endocriniens omniprésents, la sédentarité, pousser les hommes à ne pas vouloir défendre leur famille finalement.
Et des affaires récentes comme celle du chauffeur de car, vous avez suivi, je pense, un licencié, malheureusement. Pour avoir déposé des enfants directement chez eux par souci de sécurité, illustre selon vous une certaine, je pense que vous n'allez pas me dire non, absurdité administrative et un manque de bon sens. Comment analysez-vous ce type de dérive dans la France d'aujourd'hui ?
Écoutez, moi je suis trop primitive pour cette société moderne. Pour moi, un homme qui fait son rôle, qui remplit son rôle, c'est-à-dire protéger les plus faibles, et qui est puni, mais c'est d'une absurdité.
Il semblerait que, non, que ce ne soit pas son rôle.
Non mais c'est clownesque, c'est à l'image justement de notre société absurde. Je pense que tous les jours, cet homme devrait être honoré. Et le problème, c'est que le système punit cet homme, alors que c'est lui-même qui crée ce climat d'insécurité. Exactement. Et c'est lui-même qui provoque ça, qui crée du laxisme judiciaire. Je trouve ça insoutenable. À la place de cet homme, je quitterai la France.
Ah ouais.
Oh non, insoutenable. Révolu, ça me révolte.
Et sur les réseaux, Anastasia, vous avez récemment demandé à Caen un référendum sur la peine de mort, n'est-ce pas ? Pensez-vous que ce débat mérite d'être rouvert en France et dans quelles conditions ?
Évidemment que ce débat devrait être réouvert, mais pas sous ces conditions actuelles. C'est-à-dire que le système judiciaire est défaillant. Les délais pour que les affaires soient traitées sont interminable. Il n'y a pas assez de juges pour 100 000 habitants. Dites-vous, en Pologne, il y a plus de juges sur 100 000 habitants qu'en France. Les prisons sont en débordement, par exemple. En Pologne, non. Un système aussi défaillant ne devrait pas avoir le pouvoir sur la vie des gens. Donc, premièrement, je proposerai une réforme totale du système judiciaire, des peines planchers, de la sévérité. Je pense que la justice, c'est mon côté le plus extrême droite. Parce que j'ai quand même quelques idées de gauche. Pas beaucoup, mais quelques. Mm-hmm. Et c'est vraiment le côté sur lequel je serai intransigeante. Les innocents ne doivent pas payer pour les fautes du système, comme on le voit récemment avec Louis, comme on l'a vu avec Liana. Mm. C'est un scandale. Et j'estime qu'à partir d'une certaine cruauté, à partir du moment où une personne se permet de commettre un certain nombre de crimes, par exemple toucher des enfants, il perd son humanité. À mes yeux, il ne devrait pas vivre parmi nous dans cette société. Voilà. Et on ne devrait pas l'entretenir pendant 20-25 ans, nourri, logis, blanchi, à faire du karting avec ses copains en prison. C'est mort. Ça me révolte, ça fait monter la tension.
Et je pense que nos auditeurs vous suivront. Un dernier mot, un dernier mot en une minute pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre histoire, ne vous laissez pas soumettre, ne vous laissez pas retourner le cerveau par les médias, payez en cash, l'argent liquide c'est la liberté, ils veulent nous enlever cette possibilité en 2030, ils veulent mettre en place l'euro numérique en prétendant que le cash ne sera jamais supprimé, mon œil. N'oubliez pas que nous avons été mis sur cette terre pour une raison, ça ne vient pas du hasard, c'est totalement irrationnel de penser que tout s'est créé par hasard, c'est bien plus rationnel de penser qu'il y a un créateur intelligent derrière la création, nous avons une mission. Ne vous laissez pas marcher dessus, soyez fiers et battons-nous pour notre souveraineté et notre liberté.
Donc, en 30 secondes, quant à l'IA, l'IA, vous, dans un certain sens, vous fait peur ?
Évidemment que l'IA me fait peur. De toute façon, Darmanin a déjà parlé d'une refonte du système judiciaire complètement dirigé par l'IA. Ce n'est que le début. Il y a aussi la reconnaissance faciale que la police utilise déjà avec l'IA. On vous prend en photo et ils retrouvent votre identité. Ce n'est que le début.
Momochi,
ce n'est que le début.
Bah écoutez, Anastasia, ça passe très vite. Hein.
Très très vite, quand on parle de vrais sujets.
Bah écoutez, je reviendrai, j'espère.
Pourquoi pas, pourquoi pas.
Merci en tout cas infiniment pour cet échange franc, lumineux et sans concession. Hein. Vous nous avez rappelé avec force qu'une féminité assumée, enracinée dans la culture et le bon sens n'est pas un retour en arrière, mais bien une voie d'avenir. Hein.
Du réalisme, tout simplement, voilà. De l'objectivité.
Et à travers votre regard franco-polonais, hein, vous nous invitez à redécouvrir donc des évidences trop longtemps oubliées, le rôle complémentaire des sexes, la fierté des identités nationales, le respect de la mémoire des peuples et le courage de dire non aux idéologies qui abîment les familles et les nations.
Exactement.
Bien. Chers auditeurs, donc je vous invite vivement, hein, vraiment, encore merci d'être...
Merci pour l'invitation.
C'était très intéressant, c'est pour ça que j'aimerais bien vous réinviter, à suivre donc la Slave Dissidente sur TikTok, Instagram et X, j'ai rien oublié.
Exact. Pour l'instant, bientôt YouTube.
Et bientôt YouTube, où elle continue avec élégance et courage donc, son combat contre le manque d'objectivité, de culture et de neurones. Anastasia, bah écoutez, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et puis vous êtes, vous l'avez bien compris, la bienvenue, ça fait à peu près 3 fois que je vous le dis, quand vous le souhaitez, sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.